Bonjour à tous, je m'appelle Zaki et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du blog selancerensante.ca. Vous retrouverez ici régulièrement des entrevues d'entrepreneurs du secteur de la santé. Vous découvrirez leur parcours, leurs réussites et leurs astuces. Vous pourrez aussi retrouver un résumé des entrevues sur le blog ainsi que d'autres articles, en espérant que cela puisse vous aider et vous inspirer dans votre aventure entrepreneuriale. Bonne écoute! Donc, tout d'abord, est-ce que tu me permets de te tutoyer? J'ai oublié de te demander.
Ah oui, bah, bien sûr, évidemment.
Donc, écoute, comme je te disais, je voulais, quand je t'ai contacté, tu m'as proposé le type podcast, je me suis senti challengé, je dis, bon, faut le rendre hommage, on va essayer de faire ça. Donc là, j'ai essayé par
Après,
encore.
C'était l'idée, ça me semblait, mais tu fais vraiment comme tu veux. Hein.
Ben non, au contraire, j'aime les défis, et puis écoute, j'aime apprendre des nouvelles choses, et puis ça me permet de tester des trucs, c'est bien.
Okay.
Donc, écoute, j'ai fait des recherches sur toi. Je vais te faire un petit portrait rapide et tu vas me dire si je me trompe ou pas, ok?
Ok, vas-y.
Donc, Jérôme Cazerolle, qui a étudié à Bordeaux en France à l'école d'ostéopathie,
ouais.
Pratiquant de sport, s'est spécialisé dans la biomécanique, l'analyse morphologique, anatomique, posture et entraînement. Si je comprends bien le principe, ta clientèle principale, c'est surtout les sportifs. Tu travailles en ce moment à la clinique d'ostéopathie KeySense et à Kinatech Sport Physio. Ouais. Tu es propriétaire de deux pages web, Montréal Ostéopathie et Biomécanique Podcast. Et est-ce que ça ressemble à ça?
Je crois que oui. Hein, je crois que oui.
Je ne me suis pas trop trompé là.
Non, tout est bon. Alors, répète la fin des deux pages. Ouais, bah en fait, c'est juste que j'ai deux sites, mon site perso.
Deux sites internet, ouais, c'est ça.
Pour l'ostéo et j'ai séparé le site pour le podcast. J'ai qu'une seule page Facebook parce que j'ai pas envie de me refaire chier à créer une autre page Facebook et à l'animer.
Ouais.
Mais, avant, j'avais tout ce qui était podcast, c'était sur mon site principal. Puis j'ai décidé de. Avant, j'avais les podcasts. Sur mon site principal, je mettais les trucs et puis j'ai décidé de séparer les deux, de faire le site juste pour l'ostéo et le site pour les podcasts, juste pour séparer les deux, quoi.
Ok, je comprends, et séparer tes deux activités entre guillemets. Ok, donc si tu peux me détailler un peu ton parcours, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit pas souvent, quelqu'un qui vient de France, tu viens tout comme moi, est-ce que tu viens vraiment de Bordeaux?
Non, pas exactement de Bordeaux, parce que j'ai fait des études là-bas, mais de Dax précisément. Et donc j'ai fait les démarches, j'ai eu une réponse assez rapidement, j'ai eu la chance d'être tiré au sort, c'était fin d'année 2016 pour le coup, fin d'année 2016. Okay. Je crois que c'était un 24 ou un 25 décembre. Allez, à ce moment-là, j'étais à Dubaï avec mes parents. Je me demandais quel âge t'avais parce que je n'étais pas sûr.
Bah oui, excuse-moi, j'ai pas entendu la question du tout. Moi, 37 ans.
Ok.
37, et écoute, je suis arrivé au Québec en 2014. J'imagine que toi, c'est plus récent, c'est ça?
3 ans. Fin 2016. Non, attends.
Ok, donc là, t'es...
Non, fin 2017, puisque...
Ok.
En septembre, ça fera 3 ans pile que je suis arrivé. Donc, okay. Donc maintenant, fin septembre...
T'as commencé à t'habituer à l'hiver québécois.
Ouais, non.
Non, pas encore.
Non. Surtout
en là, cette
année, là, fin août, là, c'est pas possible. Quoi.
Le temps.
Là, les températures ont baissé, tu te dis, genre, c'est pas possible. Déjà la fin, quoi.
Donc, mais non, c'est pas habitué. Ça fait toujours comme ça, et puis on va avoir logiquement l'été indien en septembre.
Ouais, on croise les doigts.
Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à Montréal, de passer de la France à Montréal pour ta pratique?
Qu'est-ce qui m'a amené? Ben, PVT, déjà.
Ok, ça c'est ok.
Simplement. J'avais envie d'aller au Canada, j'avais envie de venir au Canada vers la fin de mes études. Et alors, j'avais envie, mais je n'avais pas fait les démarches. Et c'est lorsque j'ai été diplômé qu'il a fallu que je travaille. C'est que je me mette dans mon activité. Donc, j'ai eu une occasion qui s'est présentée dans un petit pôle santé, enfin, ouais, une espèce de pôle santé dans ma région. Et j'avais reçu un mail du gouvernement du Canada, comme quoi j'étais invité à présenter une demande, parce que j'avais été tiré au sort selon dans le bassin de candidature. Et
Ah ouais.
donc c'est à partir de là que ça s'est mis en place. J'ai eu la lettre, une lettre pour se présenter à l'aéroport, tu vois, le truc qui te permet d'arriver ici et d'avoir ton PVT pendant 2 ans.
OK.
Et donc le temps là où je travaillais, que je mette en place tout ce qu'il faut pour partir, résilier tout ce qu'il faut, essayer de chercher un Airbnb en arrivant, etc. Enfin, le minimum, organiser le voyage. Je
OK.
m'étais programmé septembre 2017. Donc tu vois, j'avais reçu la lettre tout prêt pour que je puisse venir ici. C'était de février-mars 2017, et je suis
Ouais.
arrivé en septembre, tu vois, juste après l'été. Aussi le côté, ben, je suis jamais parti de loin comme ça, à redémarrer de zéro presque. Donc il y a un peu l'effet aussi, je vais pas partir de suite. Donc il y a quelques mois, le temps de se préparer. Il y avait quand même aussi que je travaillais je faisais les consultations, tu vois, là où j'étais. Donc dans le sud-ouest de la France, là, tu vois, j'étais toujours au pôle santé. Donc
OK.
il s'agissait pas de partir du jour au lendemain comme ça. Il y avait tout un truc, j'avais un bail, j'avais des rendez-vous qui étaient programmés. Voilà, donc laisser une bonne marge d'occasion d'y aller, en fait, d'y travailler. Mais j'avais quand même envie de partir, et c'est durant cette première année que j'ai fait les démarches pour le PVT. Et quand je dis durant la première année, je crois que c'est durant les 3-4 premiers mois, de faire la démarche pour essayer d'avoir un PVT. Donc
OK.
c'était complètement dans le conditionnel, puisque tant que t'as pas été tiré au sort pour pouvoir présenter une vraie
Ouais.
demande, etc., tu peux pas trop visualiser le truc, tu vois, tu peux pas trop pour résilier les bails, pour mettre tout le monde au courant. Et voilà, hein, ça s'est passé comme ça.
C'est une aventure.
Ouais. Bah, t'as vécu la même
Ouais, sauf que moi, j'ai passé par un parcours différent. J'ai demandé le... comment ça s'appelle? C'est pas la résidence, mais...
Le CLQ d'abord.
Ouais, j'ai fait le CSQ et puis après j'ai demandé. Ben oui, j'ai fait le CSQ en premier. Après j'ai demandé la résidence permanente et quoi. Lorsque je l'ai eu, je suis venu la valider ici. Donc je te dirais, ça m'a pris un bon 2 ans avant de venir. Ben ça, j'ai commencé l'aventure en 2012-2013 et les démarches, je pense, de mémoire. Et je suis arrivé ici en 2014. Donc là, avec ton PVT, donc t'es toujours en PVT ou pas?
Non, non, là, je suis plus sur le statut de PVT.
Ok, donc là t'as fait.
Ouais, je l'ai dépassé. J'ai fait ce qu'il fallait pour continuer, là, pour remplir. En fait, RITMA, ils ont une politique qui est qu'il faut avoir eu un diplôme avec tant d'heures, qu'il faut avoir fait tant d'heures de clinique pédagogique. Ils ont des critères d'admission. Et si tu respectes ces critères, c'est bon. Et tu n'as pas, aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas moi, quand j'ai rejoint la station, il n'y avait pas d'équivalent spécifique, parce que si tu veux, leurs critères d'admissibilité, ils étaient largement atteints, en fait, avec un diplôme français, puisque les études là-bas en France, il y a plus d'écoles, les formations, il me semble, sont beaucoup plus encadrées. Il y a eu des lois qui étaient passées pour mettre à niveau toutes les écoles, pour que ça soit quelque chose de beaucoup plus standardisé et beaucoup plus
D'accord.
professionnalisé. Fait que
OK.
le niveau de qualité des études en France est considéré, je ne dis pas c'est pas mon avis perso, c'est ce que j'entends,
Ouais.
qui se ressort beaucoup, est considéré comme meilleur par rapport à ici. Puisque comme il y a plus d'écoles, puisque comme c'est peut-être un peu plus connu, ou que c'est plus encadré, on va dire, en France, ce qui fait que la qualité est considérée comme meilleure. Et c'est pas moi qui le dis. Et par exemple, j'ai très souvent entendu que les gens qui cherchent une ostéo à Montréal, souvent, ils préfèrent les ostéos français par leur approche, par leur. Alors après, c'est aussi comme une légende qui se perpétue, tu vois, mais par leur approche, par leur niveau de connaissance, qui sont considérés comme mieux formés. Après, ça ne veut pas dire que ceux-ci sont mal formés, mais c'est un peu l'idée qui s'en dégage. Donc, ça, c'est pour Ritma. Je te la fais longue, en fait, hein.
Bah oui, c'est intéressant, j'apprends,
Mais
c'est
voilà, la
parfait.
petite histoire. Bref, voilà un peu le tour.
Est-ce que c'est pareil en France? Vous avez un ordre? Comment ça se passe?
Non, il n'y a pas d'ordre.
Ok, il n'y a pas d'ordre en
Il
France.
n'y a pas d'ordre. Alors, il y a aussi deux, trois associations. Alors, je dis association, mais c'est pas le bon terme. Je sais qu'il y a le ROF, le registre d'ostéopathie de France. Il y a une autre asso, une autre organisme de représentation comme ça. En fait, ils veulent un peu imiter les ordres. Donc, alors comme il n'y a pas d'ordre, ce sont des organismes privés, ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui se font en concurrence, un petit peu comme le Rythma et l'ostéopathie Québec ici. La différence, c'est que tu n'es pas obligé d'y adhérer. Alors certains, je me souviens à l'époque, certains jouent avec la peur en te disant il faut que tu adhères, c'est presque une obligation envers toi-même, envers la déontologie, envers le fait de pouvoir être représenté par un organisme si jamais il t'arrive quelque chose. Que je pense que oui, parce qu'ils doivent avoir des partenariats avec des assurances, des partenariats avec peut-être des experts, tu vois, si jamais il t'arrive quelque chose pour te protéger d'une certaine manière. Mais tu n'as aucune obligation, c'est-à-dire que tu peux très bien travailler, être ostéo. Il suffit d'avoir un numéro CIRE en France, puisque tu es une entreprise, donc il faut t'inscrire à une entreprise individuelle ou auto-entrepreneur quand tu démarres en général. Et il te faut avoir le NAS, je crois, c'est le numéro d'assurance ou le NAS, pardon. Numéro, non, NAS c'est ici, je suis con.
NAS c'est ici.
C'est un autre truc. C'est un autre truc. Tu dois t'inscrire et tu dois avoir un numéro parce que tu es considéré comme un métier de la santé. Donc voilà, tu as juste besoin de ça. Et ensuite, les factures, tu peux les délivrer de toi-même tant que tu as ton numéro ciré, tu as ton numéro. Que je n'arrive pas à retrouver le nom.
Bon, c'est correct. Ok. Mon autre question, c'est, vu que tu as des points de comparaison entre la France et le Québec, est-ce que toi, tu trouves que l'ostéopathie au Québec se pratique comme la France ou il y a des différences?
La grande différence que j'ai remarquée ici, c'est l'approche et les techniques utilisées et surtout un petit peu les chasses gardées de certaines professions. Je vais te donner
ça,
un
c'est vrai
exemple.
Qu'il y a des actes réservés, que c'est ça?
Ouais, alors des actes réservés, je crois que, et encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste, donc je demanderai à tout le monde de vérifier ce que je dis. Il ne me semble pas que dans la loi, ça soit écrit noir sur blanc, hyper clairement, que les ostéos ont le droit à faire telle technique, que les ostéos n'ont pas le droit à faire telle technique, que les chiros ont le monopole de telle technique. Je ne crois pas que ça soit écrit de manière aussi claire. Donc, autant respecter plus ou moins ce qui se fait, tu vois. Enfin, ce qui se fait et ce qui a l'air de se dire. Pareil, je vais donner un exemple très simple parce que c'est un peu vague ce que je raconte. En France, quand tu vas voir un ostéo, il y a une réputation. Alors, c'est en train de changer parce que les approches se multiplient, certes. Mais la grande réputation d'un ostéo en France, c'est qu'il fait craquer. On connaît tous, surtout dans les années 2010. Là, c'est en train d'évoluer, mais avant, les anciennes générations, si on demande à nos parents s'ils connaissent les ostéos et s'ils les ont vus, c'est très assimilé à soit des rebouteux ou des mecs qui te font craquer, qui te remettent les os en place. Il y a vraiment cette idée d'approche structurelle où je te claque un peu toutes les articulations, je te les remets en place, tu vois. C'est un peu l'idée principale qu'on a des ostéos en France, parce qu'on est beaucoup, il y en a beaucoup qui pratiquent l'ostéopathie structurelle, donc des techniques manipulatives structurelles qui font craquer. Ici, beaucoup moins, pour la simple et bonne raison que c'est censé être des chiros. Toutes les techniques qu'on appelle manipulatives à haute vélocité, les techniques HVB à haute vélocité, basse amplitude, les techniques où en fait tu envoies une impulsion et par conséquent, la conséquence de cette impulsion est de redonner une certaine mobilité ou alors d'ajuster, parce que les chiros parlent d'ajustement, ajuster une vertèbre ou une articulation. Et la conséquence, c'est que souvent, il y a un crack qui se fait. Il y a de l'air qui s'échappe de l'articulation au moment de la technique. Et donc, il y a un crack qui se fait. On assimile le fait de craquer à en remettant en place, alors qu'en fait, ça n'a pas de lien. Tu peux très bien faire craquer une articulation sans redonner une certaine mobilité ou sans avoir un effet ostéopathique ou chiropratique. Et alors ici, ce sont les chiros qui font ces techniques-là et qui sont censés être les seuls à pouvoir faire ces techniques. Là où les ostéos n'ont théoriquement pas le droit de faire craquer. En réalité, c'est très difficile à prouver parce que ça peut très bien craquer alors que tu n'as pas forcément envoyé une grande impulsion. Mais normalement, le fait de faire une impulsion, de faire le thrust, on appelle ça le faire le thrust, c'est pas les ostéos qui ont le droit de le faire. Je ne sais pas si c'est aussi clairement écrit dans la loi, mais c'est ce qui est dit, tu vois. Et ce qui fait que voilà, c'est là où les différences, je trouve, la différence est la plus grande entre ici et là-bas. C'est-à-dire ici, eh bien, du fait de cette contrainte, les techniques et les approches sont enseignées à l'école. Donc déjà, rien que lors de l'éducation, on enseigne plus des techniques autres que les techniques manipulatives. Donc par conséquent, les ostéos formés ici sont beaucoup moins manipulatifs, enfin, font moins de structurel. Donc ils ont des approches plus douces, plus tissulaire, plus facial, plus énergétique peut-être, je sais pas trop. Et je pense qu'on voit moins d'ostéos formés ici faire des techniques manipulatives pour toutes les raisons que j'ai détaillées précédemment qu'en France, puisqu'en France, ça fait partie du cursus, ça fait partie du programme.
Donc je comprends qu'il y a vraiment une différence.
Ouais.
Du coup, ça t'a dû te demander de l'adaptation, j'imagine, et
ben, en réalité, pas tellement, parce que je suis pas un fervent défenseur absolu des techniques manipulatives. C'est très utile des fois. Ça a vraiment son sens. Je ne travaille pas que comme ça. Avant de venir, je ne travaillais pas que comme ça. Il y a plusieurs techniques. J'adore travailler avec le musculaire, c'est-à-dire avec la collaboration du patient pour des techniques où tu vas le faire pousser, relâcher, pousser, relâcher. Soit pour travailler sur un étirement musculaire, soit pour travailler sur une restriction de mobilité. Tu vas te servir des muscles pour relâcher, redonner de la mobilité, redonner de la balance. Et des fois, une technique manipulative va avoir son effet. Alors, il y a l'effet de débloquer, entre guillemets, mais il y a aussi tous les effets qu'il y a à côté. C'est-à-dire que le fait de quand ça craque, il y a des choses qui se passent. Il y a des vibrations qui se font à l'endroit, il y a une libération d'hormones, une libération de choses qui font qu'il y a une relaxation qui se fait. C'est le fameux « ah, ça a craqué, ça fait du bien ». Des fois, ce n'est pas parce que ça a remis en place quoi que ce soit, mais juste parce que le fait que c'est craqué, ça fait un feedback neuro qui provoque le relâchement musculaire. Tu as aussi une libération d'hormones qui fait que ça fait du bien. Voilà, donc on entend souvent des discours comme « ah, il m'a fait craquer partout, je me sentais trop bien ». C'est pas que du placebo. Il y a un effet physiologique qui ne dure pas forcément à long terme, qui peut, mais donc ce qui fait que j'utilise plein de techniques.
Ton statut en tant que travailleur de la santé, est-ce que tu es un travailleur autonome? Tu travailles pour une clinique, tu es un employé? Est-ce que tu es un entrepreneur? Comment te définis-tu?
Entrepreneur. Comment je me définis, et sinon mon statut, c'est travailleur autonome. Quand je dis comment je me définis, c'est que je me vois comme ça. Je suis quelqu'un qui va faire pour moi-même, qui va entreprendre des choses, et pas comme quelqu'un qui va servir une autre personne ou une autre entreprise. Alors, je le sers d'une certaine façon, mais en tant que statut juridique, c'est travailleur autonome.
Okay.
Et là où je travaille, j'ai un statut de travailleur autonome et de consultant. Surtout à l'une des deux cliniques où j'ai réellement ce statut de consultant puisque je facture les deux même. Hein. Je facture la clinique. En fait, si tu veux, ce sont mes patients, ce sont mes clients, mais l'organisation mise en place pour que ce soit le plus simple, c'est que je ne facture pas les clients. Les clients payent à la clinique et moi, je facture la clinique. Ce qui revient exactement à la même chose, mais c'est d'un point de vue... comptabilité, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde et mis en place aussi, tu vois.
Ok, tu factures à ton compte en tant que travailleur autonome, mais si je comprends bien, dans les cliniques où tu travailles, tu dois payer un loyer pour les utiliser, c'est bien ça?
Mais ouais, si tu veux, je facture la clinique la personne paye un prix. Moi, je facture à la clinique un prix plus faible, un pourcentage du prix global. Le pourcentage que la clinique garde correspond à l'allocation, à en fait tout ce qui va être le matériel, la salle, la table, etc. Tu vois. Je vais la faire très simple. La personne paye 100 dollars, je vais facturer 60% de ça à la clinique et c'est ce qui va me revenir. En fait. Tout le reste est censé être la
Ok, je comprends mieux. Moi, de ce que j'en ai déduit sur ton site internet, vraiment, tu étais à ton compte, mais en travaillant chez des prestataires de services.
Mais c'est ça, c'est exactement ça, en fait. C'est ça, quoi. Je suis travailleur autonome et je travaille dans deux cliniques et je facture les deux cliniques, quoi. Donc, c'est travailleur autonome, quoi. les patients viennent me voir, mais ils payent à la clinique. Si eux, ils ne savent pas, eux, ils payent leur rendez-vous, si tu veux. Et, okay. Et moi, ensuite, je facture à la clinique, pour faire simple. Donc, c'est du travail autonome,
okay.
Dans tous les cas.
Qu'est-ce que tu appelles par consultant? Ça, je suis curieux de savoir. Je connais l'ostéopathe qui fait des pratiques, mais
Mais c'est juste un terme, en fait. C'est juste un terme de okay. Statut de consultant, en fait. C'est pas…
Ah, ok. Ton statut au sein, par exemple, de Kinatex, là, c'est Kinatex.
Voilà, travailleur autonome consultant, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas salarié et qui vient faire des consultations et qui travaille là-bas. Mais si tu veux, c'est un peu comme il y a deux types de statuts. Le salarié qui travaille pour l'entreprise et l'entreprise te paye. Et puis le consultant qui travaille pour lui, qui en même temps offre un service à la clinique et puis qui ne travaille pas directement pour la clinique. Bon, okay. C'est des statuts, je pense qu'il ne faut pas se prendre de fou avec ça. Bah, travailleur autonome.
C'est intéressant de le savoir, surtout que moi, la thématique du blog, c'est vraiment tout ce qui est lié autour de l'entrepreneuriat à faire. Donc, ouais, c'est quand même intéressant de le savoir.
Ok.
J'imagine que bon, tu es arrivé au Québec et tout, donc comme tu me parles de travailleur autonome versus auto-entrepreneur qui n'a rien à voir. Comment tu t'es formé, entre guillemets, à bah, tout ce qui est juridique ici?
Pas beaucoup, tout ce qui est juridique, parce que je trouve ça, dans le sens où je n'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de le comprendre. Juridique, ben, je ne me suis pas réellement… Non, ici, il faut simplement payer une assurance, cotiser à une assurance de responsabilité civile en cas de problème pour… en cas de problème, il ne t'arrive à rien, mais un jour, tu as un problème, quelqu'un se plaint contre toi ou quoi que ce soit, tu as une assurance de responsabilité. Qui va éviter que tu ailles au tribunal et que tu payes 2 millions de ta vie. Non, mais voilà, c'est juste des assurances, quoi. C'est un peu comme quand tu conduis ta bagnole, si tu n'as pas d'assurance et qu'il t'arrive un accident, ben, tu vas payer toute ta vie. Et ben, c'est tout ce que tu as besoin. Après, tout le côté entrepreneuriat, ici, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de t'inscrire à une entreprise quand tu es travailleur autonome, en fait, puisque le travailleur autonome est confondu avec la personne civile, en fait. Dans ta déclaration d'impôt, en fait, tu as une partie technique, tu as une partie spéciale pour travailleur autonome. Tu n'as pas besoin d'ouvrir une entreprise pour te détacher. En fait, c'est le travailleur autonome et également la personne en elle-même. Là où en France, on te demande de détacher d'une certaine manière. Bon, c'est plus subtil que ça. Hein. Les pros qui écouteront ça ou qui liront ce que je raconte diront que je dis plein de conneries. Ouais, évidemment, je dis plein de conneries. Donc, je ne sais pas mon domaine d'expertise, tu vois.
Ben non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est l'adaptation de chaque personne que je trouve vraiment intéressant. Les points de vue aussi différents. Donc, ben non, c'est parfait.
Ouais, mais qui ne prennent pas pour argent comptant absolument tout ce que je dis et qui ne disent pas « Ah, il a dit ça, donc c'est ça. » Non, je ne suis pas un expert là-dedans. Et sinon, ici, c'est très, très simple parce que tu n'as pas besoin de faire grand-chose parce que tu peux, en fait, travailler directement. Tu n'as pas besoin de t'inscrire nulle part. Voilà. Tu peux être travailleur autonome dès que tu gagnes un revenu non salarié, en fait. Okay. Bon, il faut le déclarer, hein, sinon ça s'appelle du black et c'est pas autorisé. mais admettons, demain, je vais faire… Je dis n'importe quoi, mais admettons, demain, je vais faire un cours de juridique à quelqu'un n'importe où. Ce qui ne risque pas d'arriver, parce que tout le monde l'a compris, je suis nul là-dedans. Mais je décide d'aller faire un cours juridique à une personne qui me le demande. Je lui facture $50 pour l'heure que je passe avec elle. Ça, ce que je gagne de ces $50, c'est considéré comme du revenu du travailleur autonome, puisque je suis ni salarié, c'est de moi-même. Et ça, je vais être obligé de le déclarer dans ma déclaration d'impôt, dans la partie travailleur autonome.
Mais en même temps, travailleur autonome, si je ne dis pas de bêtises, il va falloir que je fasse un article dessus, là, mais de mémoire, si tu fais un chiffre d'affaires dans l'année, je crois que tu n'es pas obligé de le déclarer ou un truc dans le genre.
Donc, il y a ça aussi. Si, tu es obligé de déclarer dans tous les cas. Sous un certain chiffre qui est bien au-dessus, qui est beaucoup plus bas, tu ne vas pas payer d'impôts.
Okay.
Dans tous les cas, tu es obligé de déclarer. Si tu as gagné $500 sur toute l'année parce que tu fais une activité de voyance, tu es obligé de le mettre quand même. Tu ne vas pas payer d'impôts parce que tu as un palier minimum auquel tu vas payer des impôts dessus. Si tu gagnes $500 okay. dans l'année de voyance, tu ne vas pas payer d'impôts sur ces $500. Si tu gagnes $20 000 par an d'activité de voyance, tu vas payer des impôts parce que tu auras dépassé une certaine échelle qui fait que tu vas payer des impôts. Et ensuite, c'est des paliers, en fonction des paliers qu'au fur et à mesure tu vas payer des impôts. Je sais juste que le statut de travailleur autonome, à partir d'un certain montant, je crois, d'un certain chiffre d'affaires annuel, tu vas être obligé de te déclarer. Alors moi, je me suis déclaré. Alors je me suis pas. Je me suis enregistré, moi. C'était pour des questions de. Il fallait que j'enregistre mon entreprise
OK.
pour des questions d'immigration, tout ça. Lorsque j'ai fait mon dossier pour vivre mon aventure ici, je devais déclarer pour créer mon entreprise. Sauf que nous, on est. Je suis pas, franchement, allez voir les avocats hein, pour vous dire, parce que moi, je
Ouais,
dis.
bah oui.
Je suis vraiment pas. À partir d'un certain chiffre d'affaires, je crois que tu vas devoir changer de statut, tu dois passer sur. Tu vas devoir, alors non pas t'enregistrer, mais te.
Ça a été incorporé.
T'incorporer, voilà, t'incorporer. En réalité, en tant que travailleur autonome, tu as une grosse, grosse marge. Il te faudrait faire beaucoup, beaucoup d'argent avant de t'incorporer parce que tu déclares. Si tu veux, tu vas pas payer de l'impôt sur du chiffre d'affaires, tu vas payer de l'impôt sur
Ouais, je
du
comprends.
revenu. Donc,
OK.
il y a énormément de choses que tu peux déduire. Une partie de ton loyer personnel aussi, parce que si tu as plus ou moins un bureau, un espace de travail chez toi, et quand tu es travailleur autonome, tu en as forcément un, parce qu'il suffit que tu fasses, que tu travailles un peu sur ton site, ou que tu fasses ta compta, ou deux, trois choses comme ça, et tu peux considérer que tu travailles aussi de chez toi, tu vois. Donc, il y a énormément de choses que tu peux déduire, les trajets, les loyers pro, évidemment, les assurances, ceci et cela. Même tout ce que tu vas acheter en plus, tu vois, moi, j'ai envie, par exemple, là, c'est un exemple tout con, d'upgrader le micro que j'utilise pour les podcasts. Donc,
Ouais.
je vais investir un peu plus d'argent pour avoir un micro que j'ai envie d'avoir de meilleure qualité. Ça fait partie plus ou moins de mon activité, parce que mon podcast me sert aussi à mon activité d'ostéo. Donc, ça rentre dans le cadre d'une dépense professionnelle. Donc, ça, je peux le déduire de mes impôts, enfin, le déduire de ma déclaration. Donc, si tu veux, un travailleur autonome, avant d'atteindre un palier, le palier qui fait que tu vas devoir t'incorporer, il te faut un bon revenu, quoi.
Mais de ce que j'en déduis, c'est vraiment la facilité ici. Là, on a si tu veux
Ah ben,
travailler à temps compte, c'est
c'est
vraiment
pas
plus
si
simple que
difficile.
la France.
Ah ben, en France, c'est pas compliqué. Il faut que tu ouvres ton entreprise. Est-ce que tu as un numéro Siret? Est-ce que ceci, cela? Je sais pas comment ça a changé depuis 3 ans, mais je me rappelle qu'à l'époque, putain, mais c'est la merde, quoi.
Ben oui.
C'est une galère absolue. Et en plus, tu as l'URSSAF qui tombe tous les 3 mois. Enfin, tu choisis comment tu payes, mais tous les trimestres, il faut que tu payes tes charges sociales. Tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais pas où ça va, mais ça te prend un pourcentage du chiffre d'affaires, quoi. Alors, moi, je me souviens, parce que pour l'anecdote, les premiers mois de consultation, tu fais pas énormément de consultations, tu travailles ton bouche à oreille, en quelque sorte.
Ouais.
Et si tu veux, tu n'as pas un revenu qui est conséquent. Et tu démarres. Je sais plus combien je faisais, mais tu démarres, tu as une poignée de consultations par semaine. Et moi, ce qui m'énervait dans un sens, c'est que tu ne gagnes rien, parce que tout va dans le. Au départ, tu ne gagnes rien, tout va dans le loyer, tout va dans le. Tu n'as pas de. Tu ne fais pas de bénéfice. Et à peine, et tu commences un tout petit peu à faire du bénéfice, tu es content, tu dis, ah tiens, putain, j'ai fait un tout petit bénéfice. Alors, ridicule, hein, mais un léger bénéfice sur les 2 ou 3 derniers mois. Et là, tu as l'URSSAF qui vient, tu reçois l'URSSAF, ça t'arrive sur ta gueule, et tout bénéfice, ben, ça part pour eux.
C'est
En
magnifique.
gros, hein, en gros, parce qu'en fait, ils te prennent 30% ou 25%, je sais plus, du chiffre d'affaires trimestriel. Donc, admettons, sur les 3 derniers mois, tu as mis entre 300 et 500 euros de côté. C'est vraiment quand tu débutes.
Ouais.
Tu es presque content, tu as payé le loyer, tu as payé les factures, tu as payé l'Internet, le téléphone du bureau là où tu es, etc. Tu vois, les assurances, parce qu'évidemment, il y a les assurances, les ceci, les cela. Tu as mis entre 300 et 500 euros de côté, tu vois, c'est le bénéfice que tu as qui pour toi. Et là, tu as l'URSSAF qui dit, eh ben non, parce que sur tout ton chiffre d'affaires, moi, je vais te prendre 25%. Et en fait, tes 300, 400 euros, eh ben tu leur reverses. Voilà. Donc en fait, il te reste plus rien à la fin, quoi. Donc tu dis, bah, super, j'avais un bénéfice, mais le bénéfice vient de disparaître dans les charges sociales.
C'est des fois des petits trucs comme ça qui me font pas regretter d'être ici.
Ah putain, moi non plus, mon gars.
Pour vrai, là, des fois, je comprends totalement ce que tu dis, et puis non, c'est un autre monde. Mais on
À la limite,
rentrera
payer
pas
des
dans.
impôts, ça a du sens. Ça a du sens dans certains sens. Payer des impôts, payer
Non, mais ça a du
bah,
sens, je
ici, on paye
sais.
des impôts, mais charges sociales, je sais pas à quoi ça correspond. Et tu as l'impression de payer pour un truc, juste de devoir payer pour payer, tu vois, c'est. Ouais, je vois pas le.
Non, c'est une autre vision. Mais de toute manière, on ne veut pas, là, de mémoire, la France, je sais plus, c'est dans les premiers pays les plus taxés en Europe. Donc,
Oui, non, mais ici aussi, il y a pas mal de taxes, mais c'est organisé différemment, disons.
on le
C'est
ressent moins.
organisé différemment.
On le ressent moins ici. Enfin, moi, j'ai l'impression de le ressentir moins que lorsque
Beaucoup
j'étais en
moins,
France. Ouais.
beaucoup moins. Il y a de l'impôt, tu vas payer de l'impôt, ça c'est une certitude, mais si tu veux, je trouve que c'est fait un peu plus intelligemment. Tu vois que si on compare les deux statuts, travailleur autonome et auto-entrepreneur en France, qui sont globalement considérés comme des statuts équivalents, en fait, il y a de grosses nuances qui font que c'est différent. C'est que le travailleur autonome, déjà, tu dois enfin, tu dois ouvrir une entreprise, tu dois prendre un numéro de tiret, etc. Donc, tout ce qui est administratif, déjà, ça casse les couilles. Ici, il n'y a
Ouais.
pas, sur ça. Et aussi, travailleur autonome, en fait, c'est un statut simplifié en France pour la simple et bonne raison que tu vas avoir très peu de comptabilité à faire parce que tu vas payer tous les mois avec l'URSSAF, tous les 3 mois avec l'URSSAF, un pourcentage de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ils évitent, en gros, c'est on vous débarrasse de toute la compta, on vous débarrasse de tout l'administratif, etc. Pour simplifier au maximum, c'est vous avez votre chiffre d'affaires, vous le rentrez, vous faites un abattement avec un pourcentage et c'est ce que vous payez. Il n'y a rien d'autre à faire. Sauf qu'en réalité, ça, pour quelqu'un qui démarre et qui a besoin de faire un peu d'investissement matériel, c'est le pire qui puisse exister. Parce que c'est sur du chiffre d'affaires, c'est pas sur du bénéfice. C'est-à-dire que si tu gagnes 1 000 euros, mais que tu as 1 000 euros de loyer professionnel à payer, c'est-à-dire que ce sont des charges professionnelles, ici, tu vas faire 1 000 moins 1 000. Donc zéro. Donc tu payes sur zéro. En tant que travailleur autonome. Alors qu'en France, tu vas gagner 1 000, tu vas devoir payer 1 000, mais le statut auto-entrepreneur te dit que tu payes sur de la charge professionnelle, sur du chiffre d'affaires. Donc en fait, tu ne déduis pas ton 1 000 de loyer. Donc en fait, tu vas payer sur du 1 000. Et si c'est
Ah,
30%, tu vas
c'est
payer 300. Donc en fait, tu vas payer 300 et tu vas te retrouver avec un déficit budgétaire de 300.
Mais oui, ça fait totalement une différence d'être imposé sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices.
Ah oui, ça
C'est
change tout.
ouais. C'est alors qu'ici, même sur les bénéfices, bah écoute, comme tu dis, là, tu fais passer des charges professionnelles, tu réduis ton bénéfice, mais bon, ne veux pas, tu réduis ton imposition aussi, alors qu'en France, c'est impossible de faire ça.
Ben ouais, ben moi, ça me paraît assez logique de quand tu as gagné 1 000, mais que tu dois payer, en fait, si tu veux, quand tu dois payer 1 000 pour pouvoir gagner 1 000, quand tu dois payer 1 000 euros ou 1 000 dollars de loyer pour pouvoir en gagner 1 000, c'est pas pour payer de l'impôt sur du 1 000. Ça n'a pas de sens puisque tu payes de l'impôt sur ce que tu as gagné, pas enfin, sur ce que tu as gagné en tout, tu vois. Si tu t'enlèves tout,
Ouais,
t'enlèves toutes tes
c'est
charges.
frustrant. On va le dire ça comme ça,
Donc c'est pour
poliment,
ça, moi
c'est
ça m'énervait un
frustrant.
peu parce que ça m'arrivait très souvent, donc soit de dégager un tout petit bénéfice et de le reverser de suite à l'URSSAF ou au gouvernement français, ou alors au mieux certains mois où tu es un peu juste et en fait comme c'est du chiffre d'affaires, tu dois payer plus que ce que tu n'as gagné. Et que, comment tu peux t'en
Ben
sortir
oui, je
quoi?
comprends comment tu veux
C'est difficile, surtout
survivre.
au début parce qu'au début tu n'as pas assez de rentrée d'argent.
Est-ce que je me trompe si je dis que je me rappelle avoir lu un article à l'époque quand j'étais en France où il disait que les ostéopathes ne touchaient pas des très gros salaires parce qu'il y avait une grosse concurrence, ben, il y avait beaucoup d'ostéopathes en France. Est-ce que je me trompe si je dis ça ou pas?
Non, je pense pas que tu te trompes. J'ai pas fait des stats, j'ai pas fait des métriques pour donner un appui qualitatif sur ça là, et quantitatif.
Ouais.
Mais oui, mais après j'ai envie de te dire ça, c'est pas unique aux ostéos, c'est toutes
Ok.
les professions qui demandent d'apporter une certaine, qui ont une compétence, qui ont un service. Après, c'est l'offre et la demande, tu vois. Il y a énormément d'offres, donc forcément, la concurrence, donc forcément, faut se détacher, donc forcément, faut montrer ta valeur d'une certaine façon, faut cibler ton discours. C'est certain que plus il y a d'ostéo, plus il y a de prestataires de services dans n'importe quel secteur, que ce soit ostéo, plombier, électricien, tout ce que tu veux, plus il y en a, plus le public a du choix. Donc, plus la concurrence est féroce et plus soit tu joues sur les prix, c'est un petit peu comme la grande distribution, si tu veux, tu vois, ou Amazon, admettons, Amazon a tué tout le monde en jouant sur les prix. C'est que quand tu veux défoncer la concurrence, soit tu joues sur les prix, mais le problème c'est que dans le cas de l'ostéo, ça dévalue ton service parce que si tout le monde est à 50 euros ou 50 dollars ou 100 dollars, on va prendre 50 euros parce que là on parlait en euros tout à l'heure. et que toi tu dis, moi, je vais, pour me détacher de la concurrence, je vais baisser mon tarif et je vais le mettre à 30. Qu'est-ce que ça indique aux yeux des gens? C'est-à-dire que déjà, ton
Bah
service est moins qualitatif. Et moins qualitatif. Et c'est la course infinie à qui c'est qui sera le moins cher. C'est-à-dire que tu as un mec qui va arriver qui te dira, ah ouais, ben moi je le fais à 25. Et puis l'année d'après, tu as un mec qui va dire, moi je le fais à 20. Et bon, ça, c'est pas la bonne solution. Surtout parce que si tu veux vivre, à un moment donné, si tu fais 20 euros la consultation, il va falloir que tu en fasses beaucoup, quoi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ou sinon, il va falloir que tu sois meilleur que les autres. Mais bon, ça ne veut rien dire être meilleur que les autres. Être meilleur en quoi? Dans ta technique, dans ton traitement, dans ta communication, ça veut un peu rien dire. Ouais. Être au top du top, le meilleur de tous. Bon, ben, le meilleur de tous, il n'y en a qu'un par définition. Ou alors être meilleur dans un domaine, se différencier, etc. Donc tout ça, ce sont des qualités entrepreneuriales et des qualités d'affaires qu'on ne t'apprend pas.
Ben oui,
Et qui en fait se confronte à une réalité qui est il y a énormément de concurrence. Si derrière tu n'es pas capable de faire ce travail-là, tu ne pourras pas te dégager, quoi. C'est une entreprise, c'est une entreprise. Donc il va falloir réfléchir comme une entreprise, en
ouais.
fait. Voilà, parce qu'il faut se différencier, parce qu'il faut communiquer, parce qu'il faut avoir de la portée dans sa communication, il faut être visible. La visibilité est quelque chose qui ne tombe pas du ciel. Le truc qui pêche un petit peu.
Ouais,
c'est
vas-y,
que
c'est intéressant.
Dans ce milieu-là, dans les ostéos, il n'y a pas, tu sais, je ne sais plus où c'est que j'avais vu ça, c'est un marketeur qui en parlait, il y a 5 niveaux de clients. Et le premier niveau de client, c'est le client qui n'est pas conscient de son problème.
C'est vrai.
Et il y a énormément d'ostéos. Alors, le deuxième niveau, c'est le client qui est conscient de son problème, mais qui n'est pas conscient des solutions. Le troisième, c'est le client qui est conscient des problèmes, qui est conscient qu'il y a des solutions, mais qui ne connaît pas ta solution. Et le dernier niveau, c'est le client qui connaît ta solution. Et encore le dernier niveau, c'est le client qui connaît ta solution, qui l'a déjà acheté et qui en a déjà été satisfait. Et à lui, tu vas pouvoir lui vendre plus facilement. Et si tu veux, plus tu montes dans le niveau de client que je t'ai dit, plus c'est facile de lui vendre des choses et c'est facile de créer des offres qu'il va acheter. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les ostéos, la très très grande majorité des ostéos et des personnes dans ce milieu-là sont dans la catégorie premier client. C'est-à-dire qu'ils ont un problème, ils n'ont pas assez de clients, ils n'ont pas assez de patients, mais ils ne savent pas que. Mais ils ne sont pas conscients de ce problème, ils ne sont pas conscients des solutions qui existent. Et en fait, tu es obligé de passer par un état où tu vas les éduquer. Il faut reprogrammer le cerveau en quelque sorte. Il faut leur,
bah oui,
il faut leur reprogrammer le cerveau pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent. Voilà, parce que bon, et c'est plus long, mais c'est intéressant. Moi, ça me passionne tout ça. Après. Voilà, c'est faire l'éducation. Tu sais, la personne qui n'a pas envie d'être convaincue, moi, j'ai pas envie de batailler, quoi.
Ouais, c'est ça, moi, c'est.
Parce que j'ai connu, excuse-moi, attends, j'ai connu
vas-y.
Quelqu'un, par exemple, un ostéo, alors une ostéo, en gros, qui peinait à avoir un chiffre d'affaires qui était correct, qui était donc en France. En fait, tu vois, moi, je connaissais le mec, lui, qui était un kiné, qui était kiné, et en fait, sa copine, que je pense pas que j'avais vue, mais elle était ostéo. Et bon, comme moi, j'étais ostéo, ça nous arrive de discuter. Et une des dernières fois où j'ai discuté lorsque je suis rentré en France, il me disait que, alors lui, il faisait du chiffre, lui, il travaillait comme un âne, tu vois, lui, il charbonnait, mais que sa copine, elle, ben, c'était pas exactement la même chose, et qu'elle avait pas beaucoup de patients, qu'elle peinait à dépasser un certain chiffre mensuel. Et alors, moi, je lui demandais, OK, d'accord, putain, et alors pourquoi? Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle trouve ça dommage. Et alors, il me disait exactement tout ce que, comment c'était, quoi. C'est-à-dire qu'elle trouvait ça dommage, elle trouvait ça triste, qu'elle n'arrivait pas à faire plus, etc. Et quand j'ai commencé à lui demander, mais elle s'est demandé pourquoi, comment elle pouvait faire plus, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle a une page Facebook, est-ce qu'elle a un site, etc. Et en fait, lui, il me disait, non, elle n'a pas tout ça, non, elle ne veut pas. Elle n'a pas envie, ou alors non, j'essaie déjà de lui parler de marketing, de site, de ceci, de cela. Non, elle dit que c'est pas pour elle, elle dit que ça marchera pas, etc. Et en fait,
ben
là,
oui.
On est typiquement dans le cadre d'un client qui est, enfin, d'une personne qui est dans la catégorie numéro 1. C'est-à-dire qu'elle a un problème, mais elle n'est pas réellement consciente du problème. Enfin, elle est consciente du problème, mais elle n'est pas consciente de ce qui existe derrière. Et si tu veux ça, même avec la meilleure formation du monde, avec un super marketing, c'est, si tu veux, c'est un peu des causes perdues. Tant que, sauf s'il y a un déclic qui se passe, mais tant que cette personne n'a pas eu le déclic de se dire, OK, il y a quelque chose à faire, il faut que je travaille le marketing, il faut que je m'intéresse au marketing. Oh putain, c'est ça qu'il faut que je fasse pour que je développe mon truc et tout. Il y a une question de personnalité aussi. Tant que cette personne n'est pas à ce stade-là psychologique, tu ne pourras jamais rien lui vendre. Même si j'arrive vers elle et que je lui dis, voilà ce que j'ai fait, voilà ceci, voilà cela, tant qu'elle-même, elle n'a pas monté, elle n'a pas eu vraiment cette éducation, cette montée dans les catégories, c'est peine perdue, tu vois. Et pourtant, mon pote en l'occurrence, il était intéressé au marketing, il avait fait des formations web, etc. Tu vois, c'est un truc qui... Et puis il essaie de lui en parler, mais ça ne marche pas. Et donc voilà pourquoi je
Non,
trouve que c'est un milieu difficile, quoi.
t'as raison, mais écoute, non, t'as totalement raison. C'est pour ça qu'entre guillemets, en même temps, là, toi et moi, là, on a choisi des stratégies de communication. Tu sais, toi, c'est le podcast, moi, tu sais, c'est les articles, mais tu sais, tu
Mais
essaies de
enfin, tu
commencer
veux,
à sensibiliser.
le podcast ne me sert pas directement à communiquer sur mes consultations, quoi. C'est un plus, et j'en avais discuté là sur des dernières interviews qu'on m'a fait là. J'ai vu que tu t'étais inscrit sur ma mailing list, mais t'es arrivé un peu tard parce que la lettre Bioméca est partie il y a 2 jours, et justement dans ce mail, il y avait un lien qui renvoyait vers un épisode d'interview qu'on m'avait fait, où on parlait beaucoup de podcasts, de l'objectif du podcast. Moi, ça ne me sert pas à ramener des clients de manière directe. C'est une activité à côté, qui j'ai des ambitions externes par rapport aux consultations d'ostéo. Il y a un lien, et de temps en temps, des gens me découvrent avec le podcast, ils viennent me voir, ou des fois les gens me découvrent, puis découvrent le podcast, puis décident de venir me voir. Donc il y a un lien forcément, mais si tu veux, je l'ai pas créé dans un objectif de me ramener des clients. Ce qui m'a servi beaucoup à ça au départ, ce sont beaucoup les articles et d'autres choses qu'on pourra en parler dans un futur. Mais effectivement, on a tous les deux choisi des stratégies. Là où je voulais juste préciser, c'est que le podcast n'est pas ma stratégie de communication pour les rendez-vous. Voilà. Ça, c'était. J'ai beaucoup utilisé les articles, j'ai beaucoup utilisé les médias sociaux pour me promouvoir. Aujourd'hui, j'ai besoin de moins le faire parce qu'il y a une espèce de momentum qui s'est fait et qui a bien moins besoin de communiquer là-dessus, donc j'ai plus besoin de faire d'articles, j'ai plus besoin de faire de la promotion pour mais oui, mais là on a des stratégies de communication quelles qu'elles soient, et ça, si t'as pas ça, c'est difficile, et que ça soit en France ou ici, hein, pareil, hein.
Non, ben, je suis d'accord avec toi, mais écoute, c'est comme tu dis, c'est ça t'oblige à réfléchir, à trouver les bonnes méthodes. Tu sais, moi, je suis un enseignant vendu là. Tu sais, moi, avant, j'étais enseignant en France. J'étais dans un autre domaine. J'étais dans l'électromécanique. C'est quand je suis venu ici, j'ai refait des études dans la physiothérapie. Mais tu sais, même là, maintenant, j'ai réussi à retrouver une charge d'enseignement occasionnelle. Tu sais, j'enseigne aussi dans la physiothérapie et puis. Je trouve ça le fun, l'enseignement, c'est un truc qui me plaît depuis longtemps. Et puis, bah, écoute, j'essaie d'allier bah, t'sais, ma passion pour l'entrepreneuriat avec l'enseignement. Mais ouais, c'est ça. Donc, on en revenait là. T'sais, tu me disais donc, bah, le podcast, si je comprends bien, c'est plus un plaisir qu'une stratégie de communication pour toi.
C'est une stratégie de communication, mais qui n'a pas pour but majoritairement de promouvoir mes consultations. C'est un plaisir également, et c'est une ambition autre.
Quand tu appelles ambition haute, c'est que tu as une stratégie où tu veux te placer dans quelque chose par la suite ou...
Ouais, j'ai pas mal d'idées, mais.
Ouais, tu n'es pas obligé d'en parler si tu veux pas, mais pas de
Non,
problème.
mais parce que les idées sont pas arrêtées, et je pense que ça prendrait du temps à développer. Je suis pas sûr que c'est un réel intérêt. Je suis pas sûr que c'est un réel intérêt, mais pour faire simple, c'est un plaisir. J'adore faire ça. J'ai des objectifs qui sont pour l'instant court, moyen, long terme. Ceux les plus long terme. Si tu veux, je reste dans un truc où j'apprécie, je continue, et j'ai des idées, j'ai des objectifs derrière. Voilà quoi. Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour d'en parler. Je pourrais
Quand
t'en
même.
parler, j'en ai déjà parlé dans
Bah, c'est bien correct.
précédemment, mais je pense pas que ça a un intérêt là précisément.
Mais si, quand même, ça te donne. Moi, de ce que j'en aperçois d'un point de vue extérieur, tu sais, j'ai quand même réécouté quand même pas mal de tes podcasts et tout. Ça amène quand même une expertise. Tu sais, si je comprends bien ta ligne d'orientation, tu es en tête très sportive et veux pas, quand même, une majorité de tes podcasts, c'est des gens du sport, du milieu du sport, de la santé. Donc.
Oui, ça c'est sûr. Alors, c'est en train de, et ça va, je pense, évoluer encore. Je vais rester dans cette optique d'aller à la rencontre des personnes qui font du sport, des athlètes, des professionnels, des experts là-dedans. Mais j'ai envie d'élargir, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin, d'être dans la compréhension du corps, la compréhension de la biomécanique. Et je pense que ça va aller un peu plus loin. Je vais essayer parce que tu fais vite le tour. Tu fais vite le tour. Et puis, voilà, lorsque j'ai démarré le podcast, j'avais certaines idées qui sont en train d'évoluer. Donc, mais oui, ça donne une certaine expertise, mais en soi, c'est la conséquence, quoi. C'est pas l'objectif principal.
Ouais, mais puis, veux pas, là, je sais pas pour toi, mais même quand tu fais des préparations d'articles ou quoi que ce soit, tu fais des petites recherches et tout, entre guillemets, tu te formes en même temps, tu apprends des choses, donc
Oui, tout à fait. Tout à
c'est
fait.
ça.
Mais c'est assez marrant, je sais
Et
pas si tu as écouté, je pense pas que tu aies eu l'occasion d'écouter l'épisode qui est sorti aujourd'hui.
non, aujourd'hui, je viens de voir ce matin que tu en as sorti un, mais j'ai écouté celui de la semaine dernière.
Ouais, je pense que tu vas rigoler sur l'épisode
Ouais,
d'aujourd'hui.
le titre est pas mal accrocheur, tu sais, mais même dans tes titres, je vois des petits codes de marketing digital, tu sais, des mots qui accrochent, des mots-clés,
J'essaie.
des... Est-ce que tu t'es formé à ça ou...
Oui, bah former en continu. Oui, bah tout ce qui est copywriting, tout ce qui est les titres, le fameux clickbait, mais le clickbait, c'est de l'accroche, quoi. C'est de l'accroche. C'est
Bah oui, c'est ça.
comment. Alors c'est pas tout le temps facile. J'arrive pas tout le temps à le faire. Je disais aussi dans une interview précédente que j'essaie parfois de. J'ai certains invités qui sont pas connus. Et qui sont peut-être moins attractifs pour la personne qui écoute le podcast, disent bon, je le connais pas, c'est un sujet qui a priori ne va pas forcément s'y intéresser. Et j'essaie à ce moment-là de compenser avec un titre un petit peu plus, avec une accroche un peu plus sensationnelle ou un petit peu plus différenciante pour essayer de rattraper le manque de popularité en quelque sorte de l'invité. Mais oui, de l'accroche, c'est tourné. C'est pas facile, j'essaie de le faire un peu, mais c'est arriver
Ouais.
à créer suffisamment de curiosité. Il y a de la curiosité, il y a une espèce de bénéfice. Il faut qu'il y ait un bénéfice. Qu'est-ce que la personne va retirer de cet épisode? Qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Qu'est-ce qu'elle pourrait en retirer? En quoi il peut y avoir suffisamment de curiosité pour qu'elle ait envie d'écouter l'épisode? C'est tout ça. Mais
Ouais,
bon.
je te comprends parfaitement. Même moi, des fois, j'essaye, mais c'est vrai. Mais juste un titre, ça demande du temps de trouver les bons mots-clés, de trouver la bonne accroche. Non,
Et
c'est
c'est
difficile.
ça. Et puis ça dépend aussi de la plateforme et ça dépend le média que tu utilises. Si
En
tu
plus,
es
oui.
sur une plateforme comme YouTube, par exemple, il y a un gros aspect divertissement, il y a un gros aspect contenu rapide, contenu simple. Et alors il y a aussi du contenu recherché, du style algorithmique sur de la recherche. Il y a plusieurs stratégies, même sur YouTube, il y a plusieurs stratégies. Il y a ceux qui font de la vidéo avec des mots-clés pour se placer sur des résultats de recherche. Et
Ouais.
ceux qui ne vont pas faire forcément du placement dans les résultats de recherche, mais qui vont essayer de se différencier, de faire du clickbait, du putaclic pour amener du trafic différent. Sur Google, par exemple, un article Google, il faut s'imaginer que quelles sont les personnes qui vont sur Google, comment une personne est susceptible de trouver, c'est parce qu'elle va faire une recherche avec une question, une problématique. Tu vois, il faut viser une problématique pour apparaître dans les résultats de recherche. Et ensuite, bon, tout le SEO, ça c'est assez compliqué, quoi. Enfin, c'est assez
Ah oui,
compliqué.
je te comprends, je suis dedans là, mais ça demande du temps à maîtriser. Et puis comme tu dis, la veut pas dépendant les plateformes, il y a des algorithmes différents, il y a des...
Et les personnes qui consultent ces plateformes ont aussi une psychologie différente. Quelqu'un qui écoute du podcast ne va pas être attiré par le même genre de titre que quelqu'un qui recherche une problématique sur Google, admettons.
Ben, c'est drôle que tu en parles parce que moi, tu sais, vraiment, le podcast, ça date de cette année, tu sais, ça a vraiment été... Je dirais le Covid qui a été déclencheur. Tu sais, on est dans une
Ouais.
période différente et tu te cherches, tu as envie de faire des nouveaux trucs. Et puis tu te dis, ça fait longtemps que je vais essayer les podcasts. Et puis bon, je commence à essayer et tout. Mais c'est pas tout le monde qui connaît encore les podcasts. Mais je trouve ça tellement pratique un podcast. Moi, je l'écoute perso. Moi, je l'écoute dans mon. J'ai Android Auto dans mon auto. Et puis là, dès que je suis en voiture, vu que je travaille beaucoup à domicile, je suis en voiture, j'écoute un podcast. C'est vraiment pratique pour moi.
Ouais, c'est
C'est
fait
vraiment
pour
mieux.
ça, quoi. C'est fait pour ça. Et c'est en train de monter de plus en plus. Il y a beaucoup. De plus en plus d'écoute sur les podcasts. Bon, aux États-Unis, on n'en parle pas hein, parce que
Ah, c'est
ça a
autre chose.
explosé depuis longtemps.
Bah
Mais
oui.
en francophonie, c'est en train de monter, monter, monter. Et ça se fait vraiment progressivement.
C'est drôle que tu en parles parce que là, version Québec, Je te dirais sincèrement, j'ai essayé de chercher un petit peu, mais je ne trouve pas beaucoup de professionnels qui ont fait de podcasts
Et il y en a
francophones.
pas mal hein, au Québec. Hein.
Ah, il y en
Y
a
a
quand même. Hein.
Ah, il y a beaucoup de podcasts.
Ok.
Podcasts. Hein. Ah, ouais. Je pense. Je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, mais et je sais plus dans quel domaine, dans quelle thématique. Mais il y en a certaines où il y a plus de podcasts québécois que français.
Le Québec, mais est-ce qu'il y en a beaucoup dans la santé aussi ou...
Je t'avoue que j'ai pas fait une grosse veille.
Et moi,
Sur des podcasts québécois, je pourrais pas te répondre.
perso, j'ai cherché, et à part toi, que je suis vraiment tombé plusieurs fois, sincèrement, j'en ai pas trouvé tant que ça. Les gens, c'est quelque chose qu'ils connaissent ou qu'ont pas essayé tout court, mais j'ai vraiment l'impression que tu es dans, au moins, ou en tout cas dans ceux qui diffusent le plus, en tout cas au Québec.
Oh, il y en a quand même. Je pense qu'il y en a, je t'avoue, je pourrais pas te donner de nom
Non, c'est
spécifique de
correct.
personnes qui diffusent beaucoup, parce que j'ai une poignée de podcasts que j'écoute. J'avoue que la très grande majorité sont français.
Ouais.
Je vais pas trop chercher de nouveaux trucs. En général, c'est quand je tombe sur quelque chose. Donc, je peux pas, j'ai pas assez pour te dire.
Je suis pas mal comme toi. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur le marketing et tout, mais c'est vrai que la majorité est français, sincèrement. J'en ai pas
C'est quoi
trouvé.
t'écoutes quoi toi sur le marketing là, en ce moment? T'as découvert des trucs?
Sincèrement, en ce moment, j'ai Marketing Mania que j'aime bien. Je pense que tu connais.
Oui, j'en ai beaucoup parlé.
Ouais, j'ai même acheté
J'ai
son
serré.
livre là. J'ai vraiment appris beaucoup là, avec son livre là, cette
Ouais.
année. J'écoute The Bee Boost.
Je pense que je vais l'inviter un jour.
Ah, pour vrai, si tu c'est sûr que là, si tu l'invites un jour, je vais écouter à fond parce que.
J'essaierai de
Mais je sais
l'inviter
pas.
Stan Leloup. J'en
Mais
ai
tu l'as vu
beaucoup
son
mentionné.
histoire? Est-ce que tu l'as vu son histoire? C'est impressionnant là. Moi...
Oui, non, mais Stan Leloup, je le connais depuis. Je connais depuis un moment, hein. Avant qu'il explose avec ses vidéos, je le suivais. C'est très long. Ça fait assez longtemps. Hein. Il avait commencé Marketing Mania depuis moins d'un an que je connaissais ce qu'il faisait. Donc, je connais son parcours, etc. J'ai écouté tous ses podcasts. Je suis abonné à sa mailing list depuis longtemps. Et j'ai envie de l'inviter. Ouais, alors, il faut que je trouve l'angle. Mais oui, c'est quelqu'un que j'adore et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup référencé dans mes épisodes. J'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me demande quelles sont mes références, quelles sont mes. Je dirais pas mes mentors, mais les personnes qui m'ont influencé, il en fait toujours partie parce que j'adore ce qu'il fait.
Non, non, il a vraiment compris les subtilités. C'est vraiment de la psychologie, là. Puis je pense qu'il a compris ce que les clients cherchent. Et puis moi, j'apprends beaucoup avec lui, là, sincèrement. J'espère que tu vas pouvoir l'inviter, là. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant.
Ouais, bon, on va attendre un peu parce que c'est pas trop dans la ligne pour l'instant, mais ça viendra.
Bah, c'est quand même bon d'avoir ces objectifs. En parlant d'objectifs de publication, là, je regardais un peu ta moyenne de podcast et. Est-ce que je me trompe si tu en as, j'ai dit à peu près, tu publies une ou 10 jours?
Toutes les semaines, tous les lundis.
Toutes les semaines, tu en publies une.
Ouais,
Donc là,
depuis mars ou avril, depuis le confinement, ça m'a permis de me dégager du temps pour faire plusieurs épisodes. Ça m'a permis
Ok.
d'affiner mon process, de procédurer encore plus mon process, de le faciliter, de le simplifier et d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace qu'auparavant. Ce qui
Ok.
me permet, eh ben, j'ai continué malgré la reprise des activités. J'ai continué sur cette fréquence d'un épisode par semaine et c'est parti pour j'espère le plus longtemps possible. J'ai essayé de faire ça par batch en quelque sorte, de me faire des semaines où je vais essayer d'enregistrer un max d'épisodes pour essayer de me laisser après un peu plus de temps pour d'autres choses. Là,
C'est bien.
j'ai 3 épisodes qui sont déjà programmés là pour les 3 lundis qui suivent.
Ok.
Et c'est ma fréquence. Tous les lundis, 2 heures du mat, c'est-à-dire 8 heures heure française, l'épisode sort.
Ok, donc là il y a quand même une cohérence entre France et parce que tu es international, veux pas.
Ben, mes épisodes sont surtout écoutés en France, puisque j'ai eu beaucoup d'invités français.
Ouais, c'est ça que j'avais posé ma question, c'est comment tu abordes tout ce monde là, et puis surtout francophone là, mais comme tu dis de France en majorité, mais
Comment j'aborde,
comment tu fais?
c'est-à-dire.
Tu l'envoies un mail comme tu sais, comme j'ai fait
Ouais,
un peu par hasard,
bien
et puis
sûr.
est-ce que ça intéresse? Et puis généralement, je pense que tu as des bons retours aussi
Je prends
positifs,
un
mais.
contact, je prends un contact avec la personne avec qui j'ai invité, je me présente, je lui dis ce que je fais, je lui présente le podcast et je l'invite poliment. et gentiment si elle souhaite passer sur le podcast.
Okay.
Voilà, je souhaite l'inviter. La plupart du temps, ça s'est fait comme ça. De temps en temps, ça a été un peu différent. Tu vois, là, très récemment, j'ai quelqu'un qui s'est proposé de me faire le pont entre deux invités parce qu'il trouvait que ça serait intéressant que j'ai un invité
Ah
en
ouais.
particulier là. Et
Bien.
moi, c'était quelqu'un que je m'étais noté dans ma liste pour avoir plus tard. Et j'ai dit, ah ben écoute, oui. Alors, il en a parlé. Et bon, voilà. Ensuite, c'est moi qui vais prendre son contact, c'est moi qui vais l'inviter. Mais tu vois, c'est des gens qui peuvent te mettre un peu en relation aussi dans un certain sens ou alors initier le truc. Ça m'est arrivé récemment. Et sinon, après, c'est des amis ou des collègues. Tu vois, quand j'ai eu Thomas Desroux, par exemple, c'était un ancien camarade de promotion. Quand j'ai eu Yann Paquette, c'était le directeur du
Ouais, de
Kinatex
ta
où je
clinique.
travaille et qui est en même temps un
Ouais.
collègue puisqu'il est ostéo. Quand j'ai eu dans les premiers épisodes, ben les tout premiers, c'était des amis à moi qui avaient un parcours qui était intéressant, que je voulais mettre en lumière, tu vois, à ce moment-là. Et puis c'était je pense à Raphaël Dessouris, là, qui est le tout premier épisode, c'est un de mes meilleurs amis, donc avec qui j'ai d'autres projets à côté, donc d'autres thématiques complètement différentes. Et ça me semblait absolument logique de partager ce premier épisode et de l'inviter sur le podcast, parce que lui-même qui est un sportif pratiquant muscu. Alexandre Grigorian, le deuxième, c'était quelqu'un qui tenait une salle de sport dans laquelle je m'entraînais à l'époque, puis ça m'en est devenu un pote. Et à chaque fois que je rentre en France, je passe par sa salle, je m'entraîne chez lui, on discute, et voilà. Et donc il y a un peu tout, il y a les gens que je ne connais pas personnellement et que je vais inviter, et puis il y a ceux que je connais un peu plus et que, voilà, que je contacte. Et d'ailleurs, j'ai un collègue avec qui je vais proposer de passer dans le podcast. On l'a pas encore eu l'occasion de le faire parce que faut le mettre en place et que j'ai des épisodes déjà programmés là. Mais il m'avait dit avec plaisir quand tu veux. Donc, j'ai hâte de pouvoir discuter avec lui et de le passer sur les ondes.
Les personnalités québécoises, entre guillemets, est-ce que c'est un choix d'avoir utilisé juste la francophonie ou est-ce qu'ils sont abordables plus difficilement
Non, mais
ou...
c'est juste que c'est vrai que moi, toute ma culture sport, santé est française, puisque je suis arrivé il y a 3 ans ici. Donc, moi, jusqu'à mes 27, j'ai tout fait en France. Donc, mes influences ont été françaises. Les coachs, les créateurs de contenu, les influenceurs, on appelle ça tout ce qu'on veut, mais ceux qui sont un peu publics et qui m'ont formé directement ou indirectement, sont français. Donc, par conséquent, c'est vrai que j'ai une culture du monde sport qui est surtout en France. J'ai fait des recherches sur les gens qui sont ici, c'est pour ça que j'ai eu Félix Daigle, qui est quelqu'un que j'appréciais beaucoup dans son contenu, qui est un des influenceurs, enfin influenceurs entre guillemets, et coach et kinésio au Québec, un des plus connus, qui a une très grosse popularité. Donc je l'ai eu sur le podcast. Également, j'avais découvert les travaux de Jonathan Lelièvre, qui est coach mental, préparateur mental. Je trouvais, il avait un podcast, il avait un site, il avait une activité, je trouvais ça intéressant et j'avais envie de l'inviter. Et il était québécois. Si tu veux, moi, en somme, je m'en fous, moi, qu'il soit québécois, français,
Ouais.
ou belge, ou suisse, ou ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai eu un Suisse là ré récemment à qui on a parlé de
OK.
posture qui va sortir dans 3-4 semaines. Hyper intéressant sur la posturologie. Et si tu veux, moi je m'en fous la nationalité. Si tu veux, par un biais naturel, j'ai plus tendance à aller vers les Français parce que j'en connais beaucoup plus. Si tu veux, dans un sens, il y a encore des. Tu vois par exemple un mec comme Nassib Saïdi, qui est un des plus connus là dans le milieu musculation fitness. Bon, je l'ai pas encore contacté, mais ça serait tardé. Je sais que lui, bon, il doit être très très, très sollicité, donc. Je suis pas pressé. Mais bon, voilà, il est français, je le connais. Après, il serait québécois, ça serait pareil, je l'inviterais aussi, tu vois. J'ai pas un souhait
Ok.
particulier d'avoir que des Français, mais
C'est
ça se fait parce que je suis français de base et que j'en connais beaucoup plus, quoi. Voilà.
plus au feeling, on va dire, entre guillemets, là.
C'est au
Parce que
feeling et
t'as...
c'est parce que je connais, c'est parce que, tu sais, on s'approche de ce qu'on se connaît. Si je connaissais des dizaines et des dizaines de personnes d'ici, mais des fois, je regarde un peu ce qui se fait. Tu vois, par exemple, Mayline, qui est kinésio ici, qui est d'ailleurs
Ouais.
dans la région de Montréal, qui a un site, qui a une super approche. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas pris sa formation Rehab. Ben, son site, c'est Rehabu. J'ai pas pris sa
Rehabview.
formation Rehab, mais je pense que ça va bientôt se faire parce que je trouve ça très intéressant sur la prévention des blessures. avec des exercices, avec des trucs de posture. Alors malheureusement, elle m'a pas, bon, je sais pas si tu le mettras dans ton truc, mais elle m'a pas répondu. Je lui ai envoyé un mail d'invitation. Faudrait que je regarde si le mail a été ouvert, mais elle m'a pas répondu. Donc je la relancerai. Mais tu vois, par exemple, voilà, on a quelqu'un là que j'aimerais beaucoup avoir sur le podcast, tu vois, hein, parce que c'est hyper intéressant.
Donc là, est-ce que tu fais des suivis au niveau statistique, toi, de tout ce qui est podcast, lecture,
Très, très léger, très léger. Je regarde les épisodes de la semaine, où c'est qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont appréciés. Je regarde de manière générale les écoutes globales,
Ok.
quelle est l'évolution des écoutes globales. Après les statistiques détaillées, j'en ai une vision d'ensemble, mais j'en suis pas à l'heure de faire. Ça n'a aucun intérêt, si tu veux. Ça n'a
D'accord.
aucun intérêt de savoir si c'est plus des 25 ans qui écoutent, plus des hommes, plus des femmes. J'ai une idée qu'on est sur entre du 20 et du 40, majoritairement. Je sais que c'est plus des hommes qui écoutent, j'ai quelques femmes qui écoutent, c'est une certitude. Voilà, comme tous les podcasts, la majorité sont écoutés sur Apple Podcasts. Je sais que là, c'est ce que j'ai écrit dans le mail, là, récemment, toutes plateformes confondues, on a dépassé les 40 000 écoutes, là, depuis le début de l'émission, enfin, sur tous les épisodes.
La 40 000 écoutes de tous tes épisodes au total, c'est ça que tu me dis?
En totalité. Ouais.
Ah, c'est quand même un beau chiffre, félicitations.
Ouais, merci, mais c'est pas extraordinaire. Hein. C'est parce que si tu veux, plus il y a d'épisodes, plus ça cumule, plus certains qui sont devenus viraux. Certains épisodes sont devenus un peu viraux. Enfin, quand je dis un peu, hein, entre guillemets, hein, sur YouTube, hein, un épisode avec Luis Alberto, par exemple, ou Pascal Borel, où j'avais fait un petit décrochage sur des sujets un peu différents de ce que je faisais. On atteint les 8 000, 6 000, 5 000 écoutes, 5 000 vues sur YouTube. Donc, ça fait que tu as une portée d'un coup. Et sinon, sur les applications de podcast, c'est là où il y a le plus d'écoute, surtout de manière régulière. Et puis voilà, et puis je regarde si la courbe elle monte, si la courbe elle fait commenter. Depuis, honnêtement, il y a eu un petit pic depuis le début de l'été, je pense, où vraiment la courbe elle s'est mise à monter. Après, ça reste des chiffres qui sont modestes, hein. Sur les 2 dernières semaines, je suis à 2 500 écoutes.
Bah écoute, moi je
Et
trouve ça
uniquement
très
sur un.
honorable.
Oui, non, mais c'est le début. Mais uniquement sur les plateformes de podcast. C'est bien, je suis content, tu vois, ça monte. Parce que les premiers épisodes, il y avait 100 écoutes par épisode au maximum, quoi. C'était parce que c'est difficile, hein, de se faire découvrir avec un podcast, ça prend du temps.
Bah oui.
Mais je me rappelle les 2, 3, 4, 5, 6 premiers épisodes. Quand dans la semaine entière j'atteignais les 50 écoutes, j'étais content. Je me disais, mais qui sont ces 50 personnes, tu vois? Bon, et puis là, ça monte, ça monte, ça monte. À force d'avoir des gens qui passent sur le podcast, qui partagent, qui découvrent, ben, ça monte progressivement. Et ça fait un peu l'effet que parle souvent Stan Leloup. Alors, j'en suis pas encore là, mais l'effet où pendant beaucoup de temps, tu travailles pour peu de résultats, ça avance pas beaucoup. Et puis à un moment donné, tu as l'effet boule de neige, ça s'accélère complètement.
C'est ça, exactement. C'est la même métaphore qu'ils utilisent, mais on peut parler d'effet de levier. Puis, comme tu dis, ça prend une régularité, ça prend un certain temps. Et puis après, comme tu
Tout à
dis,
fait.
les gens vont réécouter tes vieux anciens podcasts au fur et à mesure, et ainsi de suite.
Exactement, c'est ça. Et tu vois, il a fallu une trentaine d'épisodes pour atteindre ces chiffres. Enfin, qui sont très très modestes, encore une fois, hein, qui sont loin des écoutes que peut faire un Génération Do It Yourself, ou même d'autres podcasts plus connus. Tu vois, c'est très 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 loin. Il y a lui qui est. Mathieu Stéphanie, qui avec son podcast fait 300 000 écoutes par mois, tu vois, on est sur des chiffres qui sont complètement à l'opposé. Mais
Ben,
faut bien
en
démarrer
même
quelque
temps,
part.
c'est ça. Et puis en même temps, on veut pas, on n'est pas sur les mêmes niches, même type de clientèle, même il y a des choses différentes. Il est plus, je dirais qu'il est plus généraliste entre guillemets, Stan Leloup, et
Ouais,
après
alors Stan,
toi.
je sais pas comment il fait, je sais pas si je crois pas qu'il ait déjà communiqué sur ses chiffres. Attention, hein, Stan est quand même très niché sur quelque chose de. Il est très marketing. Il est très marketing, ça reste du marketing et du business en ligne très majoritairement. C'est niché, c'est niché, dans un sens, quoi. Ça intéresse les gens qui ont un business ou qui en veulent un ou qui s'intéressent au marketing, tu vois. Donc c'est assez niché. Il fait beaucoup d'écoute, mais parce que bon, ça fait longtemps qu'il fait ça, quoi. Ça fait longtemps que ça. Un mec
Ben
comme
oui.
Génération Do It Yourself, ça fait quoi, je sais pas, ça fait plusieurs années qu'il fait son podcast. Il a invité des centaines d'épisodes, il en est à l'épisode 140 ou 150, ou je sais plus comment il en est aujourd'hui, mais effectivement, Et puis, faut un process de plaisir, quoi. Tu fais pas 150 épisodes juste pour faire des écoutes et que ça te plaît pas, tu vois. C'est pas possible.
Un podcast entre l'interview, le montage, la publication, peut-être la publicité et tout, combien de temps ça te prend?
Alors, publicité zéro,
Publicité zéro, ok.
parce que je fais pas de publicité. Ce sont les invités qui font la publicité à ma place, en quelque sorte, puisqu'ils souvent ils vont partager l'épisode puisqu'ils sont passés dedans, et puis c'est grâce à eux qu'ils m'augmentent la visibilité, et ça me fait de la pub. Combien de temps ça me prend? Je sais pas. Actuellement, ça me prend pas beaucoup de temps. J'ai pas calculé exactement parce que comme je réalise ça souvent par batch, j'essaie de faire deux, trois par semaine pendant deux, trois semaines, et ensuite ça me fait 3 mois de contenu. Donc en gros, ça me fait 2, 3 mois de contenu où je peux un peu relaxer et faire d'autres choses. J'adore le podcast, mais c'est pas le truc qui me prend le plus de temps dans la semaine. Ça me prend, et j'essaie que ça me prenne le moins de temps. En fait, pour enlever toute friction à continuer à faire des épisodes. Parce que moi, j'adore faire des épisodes, j'adore poster et publier des nouveaux podcasts. Mais toute la friction qu'il y a autour, il faut l'enlever le plus possible parce que c'est ça qui te freine à long terme. C'est
Ouais, je
tous
comprends.
les trucs qu'il y a à côté. Donc, tout ça, j'ai procéduré au maximum. Je ne fais plus de montage. Si tu veux avoir toutes ces infos, j'en ai longuement parlé puisque c'était le sujet quand même de l'épisode Offcast, le podcast Offcast dans lequel je suis passé la semaine dernière, où on parle de podcast, je parle de mon process. En fait, c'est un podcast qui est fait par Podcast Maker, qui est une communauté de podcasteurs. À la tête Raphaël Grieco, qui est donc à la tête de Podcast Maker. Et c'est un podcast qui parle de podcast. Son but, lui, c'est de promouvoir le podcasting en francophonie. Donc, il y a une communauté de podcasteurs. On essaie de s'entraider. Et récemment, il a voulu créer Offcast, où en fait, on s'invite sur les épisodes. Et là, en l'occurrence, c'était Hermano Di Micheli, qui faisait l'hôte, qui m'a interviewé pour le podcast Offcast. Donc, je me suis un peu lâché sur
Ah,
certains
c'est
trucs.
bien correct de savoir. Et puis je pense que je mettrai le lien là, parce que ça les intéressait des gens.
Ouais, ben, ceux qui aiment le podcast, en fait, c'est un podcast sur le podcast. Ceux qui ont envie de se lancer, ceux qui ont envie de découvrir le truc, et puis peut-être, je sais pas si certains sont intéressés de savoir comment j'organise mon podcast, pourquoi je le fais, etc. On en avait parlé pendant un moment.
Bah écoute, niveau podcast, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Quand même, tu as été quand même pas mal précis. Est-ce que tu as des livres, des formations? Bon, on en a parlé un peu au début, mais vraiment des formations qui t'ont été vraiment pertinentes dans ton process de podcast, travailleur autonome ou,
J'ai fait quelques formations. J'ai fait une formation qui n'existe plus aujourd'hui, sur du marketing. Je me souviens plus le nom du type. Je suis beaucoup Antoine BM. Mais après, c'est plus un paysage de contenu, un paysage de consommation de contenu que j'ai autour de moi, qui en fait c'est un peu de la formation continue. Tu vois, sur certaines newsletters, sur tu vois, on a parlé de Stanlou. Je suis sur sa newsletter, donc ça fait que j'ai un paysage continu de tout ce qui est entrepreneuriat, business, etc. J'ai déjà pris des formations d'Antoine BM, j'ai déjà pris des formations Anthony Nevo aussi. J'avais acheté une formation d'Anthony Nevo, qui est d'ailleurs ici à Montréal, que j'avais rencontré une fois, qui est influenceur. Anthony Nevo, bon, si tu connais pas, tu pourras regarder, il est connu sur le web. C'était très intéressant, ça m'a permis et puis beaucoup les livres après. Les formations, c'est pas, il n'y a rien de miracle en fait, hein. Ça peut t'apporter beaucoup d'informations et une méthodologie sur un truc précis. Et ça m'a aidé. J'ai pas eu de truc qui a révolutionné ma vie. Peut-être à la limite le bouquin qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait plonger dans tout ce monde de la psychologie et de la vente et du marketing, ça va être Influence et manipulation de Chalini. Ça, c'est peut-être le truc qui vraiment m'a, waouh, putain, génial, j'ai découvert un truc, ça y est, je suis entré dans un nouveau monde. Et ensuite, c'est tout le contenu, tous les bouquins. J'ai lu beaucoup de Seth Godin, beaucoup beaucoup de livres de Seth Godin, La Vache Pourpre, la Déception, ou le Nicard, je sais plus le nom. Il y avait le Marketing, alors Marketing et Tribu, je l'ai pas lu, mais le marketing viral, tout ça. J'ai lu beaucoup de livres de Seth Godin qui te parlent de du marketing d'aujourd'hui, de l'économie. Très, 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 très bien, tu vois. Ça ne te sert pas directement dans ton business, mais ce sont des modèles mentaux qui t'aident à comprendre et à voir les choses.
Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que tu sais, pour être un bon entrepreneur, ça te prend un mindset, tu sais, ça te prend de te former, tu sais, comme un sportif qui va se focusser pendant des semaines, des mois, des techniques d'entraînement, des différents types de renforcement musculaire ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil, de lire des livres différents à chaque fois, régulièrement et tout, je trouve que c'est vraiment formateur, sincèrement.
Ah oui, non, mais c'est clair.
Pour ma part, là, j'en consomme beaucoup depuis surtout cet été, je te dirais. Beaucoup de livres sur Audible, je ne sais pas si tu connais. Les livres audio, et puis là, moi, c'est quoi? Ça doit rouler à 3-4 livres par mois, là, sincèrement. En fait, tu as vraiment des livres de psychologie marketing vraiment intéressants. Là. Puis moi, Audible, là, pour vrai, là, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup. Là. Ok. Bah ouais, écoute, là, bah, je suis pas mal à la fin, je te dirais. Au niveau de tes projets futurs, là, donc là, tu as le travailleur autonome, consultant, qui travaille à 50, qui fait des podcasts et tout. Est-ce que toi, tu prévois quelque chose de plus gros, entre guillemets, ouvrir une clinique ou
Ouvrir une clinique, non. Ça a été un de mes projets à un certain moment, l'année dernière, ou plutôt il y a un an et demi. C'est pas quelque chose dont je sens que je serais heureux de faire. J'avais, si tu veux, c'était plus l'idée d'ouvrir une clinique, un concept. L'idée m'excitait. L'idée me Mais si tu veux, dans l'exécution, ça m'a de moins en moins plu. C'est quelque chose qui, en fait, si tu veux, moi, travailler, m'acharner sur un truc comme ça pendant beaucoup de temps, c'est pas un truc où j'y prends énormément de plaisir. Ça, je m'en suis rendu compte. Okay. Et la discussion que j'ai eue avec Yann, c'est là où j'ai vraiment vu que ouvrir une clinique, c'est pas du tout quelque chose qui me plairait parce que ça t'enlève énormément de liberté. Pour en fait pour une récompense qui est pas immédiate, mais de toute façon dans tous les projets la récompense c'est pas immédiate, mais là c'est quelque chose qui pour moi me semble pas valoir la peine. C'est juste une question de personnalité. Donc clinique, okay. Non, oui, j'ai des projets, tant qu'ils sont pas faits, j'aime pas en parler.
Bah t'as bien raison.
Enfin, j'aime pas en parler, en discuter, tu vois, j'ai pas de problème, mais je ne vais, voilà, tant que quelque chose, je ne vais pas le dire, quoi, pour l'instant. Dans les mois qui suivent, là, quoi que, on sait pas, mais j'ai pas un truc précis. Enfin, si tu veux, j'ai des idées précises, des objectifs précis, mais tant que c'est pas fait, voilà, j'ai des trucs en tête, j'ai plein de projets, mais pas que dans, en fait, c'est ça aussi, c'est pas que dans le milieu de la santé, pas que le podcast, j'ai d'autres projets à côté, mais oui, j'ai plein de projets. C'est pas fait, et j'ai pas, voilà, je pense que ça n'a pas l'intérêt d'être dit.
D'accord, bah écoute, tu es tout à ton honneur, il n'y a pas de problème pour ça. Okay. Ok, bah écoute, non, bah, je pense que j'ai fait.
Parce que j'ai pas envie du tout de mélanger avec, avec ce que je fais là en ce moment.
Moi, je voulais savoir si ça t'aurait été intéressé d'écrire un article pour mon blog. Par la suite, quand tu auras du temps, je le comprends, mais. Est-ce que c'est quelque chose
que il faudra que tu me reviennes plus tard, parce que là, je t'avoue qu'en ce moment, le temps, il est assez, limité. Ben oui, les articles, ça prend un peu de temps, ça demande d'être posé. Surtout que là, je vais devoir. J'ai d'autres trucs qui viennent en ce moment, hein, et après, par la suite, dans la semaine qui va suivre, je vais commencer à relancer les invitations de podcast pour les prochains épisodes.
Il n'y a vraiment pas de problème pour ça.
Donc, peut-être plus tard, avec plaisir. Pour l'instant, je suis un peu.
Écoute, je le prends en note.
Le dernier article en question que j'ai écrit, il date d'au moins il y a un an, je pense.
Ok, c'est ça. Non, mais j'aimais bien les articles et tout. Je me suis dit, bon, pourquoi pas proposer, mais c'est bien, ça peut être dans plusieurs mois.
Non, mais t'as raison. Mais dans un futur, je te reviendrai quand j'aurai plus de temps.
Et juste par curiosité, ta semaine de travail, ça ressemble à quoi? Parce que je te sens vraiment full, 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 comme on dirait ici.
La semaine de travail en ostéo, elle n'est pas full, tu vois. Je suis entre 4 et 5 jours semaine, avec des horaires qui sont un peu différents. Mais là où ça va être le plus. Un truc à côté, en fait. J'aime faire du sport à côté. J'ai les podcasts aussi qui me prennent un certain temps, qui n'est pas majoritaire, mais qui me prend un certain temps. J'ai d'autres trucs à côté. J'ai. notre activité auquel j'essaie de m'occuper, comme je te disais.
Ouais,
Et
ouais.
ensuite d'autres choses, d'autres activités sociales externes à côté, ce qui fait que c'est pas facile des fois de tout faire, enfin, de tout faire, de tout rentrer dans la semaine. C'est pour ça que j'ai des horaires un peu j'ai des horaires qui sont libres, où j'essaie de mettre des trucs qui sont pas programmés, quoi, qui sont pas prédéfinis, comme tu vois, le lundi matin par exemple, tu vois, là je suis disponible pour qu'on enregistre, pour qu'on se parle,
Ben
quoi.
oui, je comprends. Non, mais c'est ça fait des belles semaines. Je te
Ok, pas de
souhaite une
problème.
belle continuation. T'as quand même des beaux
Merci.
projets, t'as quand même un beau parcours, et puis je pense que tu vas pouvoir faire plein de choses. Ça, je suis vraiment pas inquiet pour toi. Surtout au Québec, il y a quand
Ok,
même beaucoup
bah
d'opportunités,
merci,
donc.
on va essayer.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de l'entrevue sur la plateforme de votre choix, comme Apple Podcast ou Google, et même à partager à vos amis. Vous retrouverez sur le blog selancerensante.ca le résumé des entrevues ainsi que des articles sur l'entrepreneuriat en santé. Rejoignez aussi les différents groupes Facebook Se lancer en physiothérapie et Se lancer en ostéopathie afin d'échanger avec d'autres entrepreneurs.